Le Festival des Possibles, c'est sur Radar. Vous êtes bien à l'écoute de Radar, on est toujours en direct, comme on vous l'a dit, depuis ce midi jusqu'à 17h30 dans notre studio mobile et au sein du parc Botanica pour le festival des possibles, organisé par l'association Vivre en Transition. Voilà, comme ça tout est dit. Ah, alors on est en perte de connexion, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Nous sommes en perte de connexion. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'espère que vous entendez. Eh bien, c'est pas grave. On va enregistrer de toute façon l'interview, quoi qu'il arrive. Et puis, on va faire en sorte que ça se passe comme dans des conditions de direct. Autour de la table de ce studio mobile, nous recevons notre ami le commandant Surkif.
Bonjour. Hey, comment ça va ?
Ça va bien, et toi ?
Ça va super.
Ça y est, il est levé.
Ah ouais, je suis levé.
La levée du corps. C'était compliqué apparemment cette nuit.
Un peu.
Bienvenue à toi, merci de nous rejoindre sur ce plateau. On va peut-être t'entendre un petit peu plus aujourd'hui.
Un petit peu plus,
parce
oui, sûrement.
Hier, tu étais pris par les aléas des différentes conférences qui se déroulaient au sein du chapiteau. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir Laure Isabelle.
C'est moi,
bonjour.
Bonjour.
Comment ça va? On se dit tu?
Bien sûr,
s'il vous plaît quand même. Comment ça va?
Eh bien, ça va super bien ce matin parce qu'il ne pleut plus.
Oui, alors on a eu une bonne grosse averse là tout à l'heure.
Mais tout le monde peut prendre son vélo, monter, voilà, ça y est, c'est cool.
Et nous faire une petite visite. Ouais. Alors, comment ça s'est passé hier déjà?
Alors, disons que comme je fais un peu partie de l'organisation, je fais plus partie des gens stressés que des gens détendus. Hein, sur le festival, mais ça s'est super bien passé. En fait, on a eu beaucoup de gens qui sont venus, ce qui était inattendu au fil du temps. Donc des gens qui avaient envie, qui étaient déterminés, qui avaient lu le programme, qui avaient peut-être regardé le site web, qui avaient choisi les conférences où ils voulaient venir. Et j'ai même vu des gens arriver quand même avec des poussettes, des bébés sous la drache, un petit côté ch'ti sur le côté drache. voilà, et c'était super beau à voir, quoi.
Ben oui, malgré le temps, effectivement, il y a eu pas mal de visites, pas mal de gens qui étaient présents.
On a comptabilisé plus de 400 personnes au clic.
Donc, ah oui. Mine de rien.
Grave, hein.
Il y a eu un intérêt pour cette édition, enfin cette première édition, cette première journée, avec le beau temps qui arrive, enfin en tout cas avec les éclaircies un petit peu plus promises, on imagine qu'il va y avoir un petit peu plus de monde, donc on vous le souhaite en tout cas. Alors on va revenir quand même sur qui tu es et puis ce que tu viens faire ici surtout. Parce qu'on
alors,
l'a pas dit ça.
Qui je suis, c'est quand même une question très intime. non, alors plus sérieusement, moi je me suis investie sur vivre en transition. Alors parce que professionnellement, moi je suis quelqu'un qui travaille depuis plus de... Allez, on va dire presque 30 ans maintenant, putain ça craint. Sur les impacts du numérique. Donc moi j'ai une vision de la transition qui est quand même... qui découle beaucoup... De tout ce que les nouvelles technologies ont transformé plus ou moins visiblement, discrètement ou pas, dans nos vies, et comment ça va aussi impacter l'emploi, l'éducation, le vivre ensemble, voilà. Et je crois que le festival démontre que le vivre ensemble, c'est quand même un truc super génial qu'il faut pas oublier.
On l'a constaté tout au long de la journée d'hier, parce que notamment au travers de la cuisine qui a été faite par des bénévoles pour l'ensemble des intervenants, on l'a constaté au niveau... il y a une réelle entraide entre tous les intervenants. « Ah, t'as besoin de ça ? Attends, je vais te trouver ci. » Ça court un petit peu dans tous les sens. « Ah mince, ça marche pas. Ah là là, il y a de la pluie, c'est pas grave. » Et finalement, on se rend compte que tout est possible.
Exactement. Et moi, je tiens... j'en profite vraiment pour le truc qui m'a rendu vraiment le plus heureuse, malgré tout ce qui a pu se passer. De toute façon, même quand c'est super bien organisé et qu'il fait un temps d'enfer, il y a toujours des merdouilles sur un festival. C'est obligatoire. Mais ce que j'ai vraiment kiffé, c'est tout le monde... Enfin, il n'y a pas eu... Personne n'a râlé. Personne n'a dit « Oh là là, je peux pas le faire. » Non. Et tout le monde a trouvé des solutions. Et tout le monde s'est adapté aux situations. Y compris toi d'ailleurs, que je remercie parce que si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas eu de concert.
Hein, j'ai quand même pas. J'ai fait mon gros possible, mais voilà.
T'as fait un gros possible. Surtout avec des didgeridoo, le truc pas franchement sonorisable, c'est pas, facile.
Et puis sous un chapiteau, parce que l'acoustique d'un chapiteau, pour ceux qui connaissent les festivals, pour ceux qui vont en festival régulièrement, on sait très bien, moi je pratique le West Park Festival tous les ans, et on sait que sous chapiteau, les acoustiques sont, on va le dire, hein, merdiques.
Ouais.
Parce que le son tourne.
Je tiens vraiment au gros big up sur cette partie de la soirée.
Et ouais, ça n'a pas été évident, mais bon, on s'en est sorti, c'était propre, ça s'est bien passé.
Exactement.
C'était cool. Et puis bah, c'est bien le principal. Et, ouais. c'est ce que ça démontre encore une fois, ce festival, c'est que bah, à partir du moment où on s'entraide, et bah, voilà, ça marche, et puis il n'y a pas de raison. Donc, on n'est pas dans le fatalisme, encore une fois, hein, on l'a déjà dit pas mal de fois hier, mais on le redit, on n'est pas dans le fatalisme, ah on va tous mourir, ah là là, le changement
même
climatique,
si c'est vrai, on va tous mourir.
Un jour on mourra tous, mais pas demain, on a le temps encore et on peut encore sauver des choses pour les générations futures, si
ouais,
on s'implique.
Mais ça c'est surtout ça le truc, c'est-à-dire qu'on peut arriver à son niveau à ne pas peut-être subir en état de choc dépressif et de traumatisme profond. Parce que déjà, si on se rassemble sur des choses, et ben, c'est beaucoup plus joyeux, même si on va tous mourir. Et puis après, je crois qu'on n'est pas tous équipés pour faire des ZAD et du militantisme. Voilà, forcené, que je peux tout à fait comprendre, hein, au vu de la situation planétaire. Moi, je trouve que ça peut apparaître normal qu'il y ait des jeunes qui soient en mode... vénère sur le sujet.
Et puis, c'est pas une injonction à devenir écolo.
Non, pas du tout.
Ça c'est super important aussi de le préciser, c'est pas soyez machin, c'est faire attention simplement.
C'est ça. Et aborder, alors moi je dirais presque que la proposition majeure, en tout cas moi celle qui m'intéresse dans l'association, c'est de réfléchir, c'est de se poser les bonnes questions et de savoir où on peut se poser une fois qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on est en capacité de faire quelque chose, quel que soit son environnement, ses pratiques, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Donc voilà, c'est pas parce que si on commence à se demander comment on va sauver la planète, alors là, vaut mieux se mettre sous une couette et regarder une série, quoi. Par contre, si on commence à se demander comment on peut vivre au mieux en respectant plus le vivant, y compris d'ailleurs les relations humaines et la sociabilité, l'entraide et la bienveillance, ce qui veut pas dire non plus être un béni oui-oui, voilà. Et moi, c'est vrai que je suis pas issue du monde écologique. Moi je suis plutôt issue du monde de l'entreprise. Donc même si déjà il y a 20 ans je trouvais que le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises étaient le meilleur mode de gouvernance, moi c'est plutôt l'aspect vivre ensemble qui m'intéresse le plus. Et pour le coup je connais les impacts négatifs du numérique et franchement ils sont très nombreux et pas forcément visibles et les gens s'en rendent pas forcément compte ou on mesure pas forcément les enjeux, mais ils sont aussi géniaux. C'est-à-dire que là, sur Vivre en Transition, moi, j'ai beaucoup œuvré pour qu'il y ait un site web, pour qu'on puisse valoriser les gens, valoriser les actions, valoriser les engagements. Et ça sert aussi à ça, le numérique, à faire du bon lien. C'est pas forcément clivant, c'est pas forcément rassembleur d'identité ou de communauté qui se parlent pas entre elles. Moi, je fais partie des gens qui ont découvert des gens comme moi dans le monde entier grâce au numérique.
Le numérique peut être vertueux, pardon.
Tout à fait.
En fait, c'est tout le souci de l'outil. À partir du moment où on utilise mal un outil, on fait pas forcément de bonnes choses. À partir du moment où on l'utilise de manière correcte, on peut en sortir quelque chose de bien.
Voilà, et encore une fois, c'est à nous, comme pour l'écologie, comme pour des tas de choses, c'est à nous de s'emparer des choses et de dire on ne veut pas que ça serve à la destruction, au clivage, à la haine, à la malveillance. On veut que ça serve au vivre ensemble, à la compréhension de l'autre. On n'est pas obligé de s'associer avec tout. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Le minimum, c'est de respecter chacun à partir du moment où il n'est pas nuisible. Voilà.
C'est un avant-goût de la conférence qui va avoir lieu à 16h, c'est
ouais,
ça, au chapiteau, cet après-midi. Alors, on a un jeune homme juste en face de nous.
Le jeune homme, il est là.
Bonjour, jeune homme.
Alors, bonjour.
Quelle utilisation tu fais des réseaux en général ?
Alors, ça dépend. Avant, j'étais énormément sur les réseaux, mais c'est vrai que j'y suis de moins en moins, que ce soit Insta ou c'est vrai que je fais plus de posts ou quoi que ce soit. J'y vais de temps en temps pour voir les stories de mes potes, mais voilà, je me suis créé un petit compte privé où j'ai allez, une vingtaine d'abonnés, et puis c'est bien, c'est que des potes. Les gros comptes, j'y vais plus. Après, Twitter, oui, j'aime bien regarder Twitter, car il y a pas mal de... J'aime bien suivre un petit peu les actus sur Twitter ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Et sinon, après, ça va être juste WhatsApp pour parler, et puis voilà, quoi.
Ok.
Donc ça va, j'ai pas une utilisation... Enfin, je trouve pas que j'ai une utilisation trop pousser des réseaux sociaux non plus, tu vois.
Ouais, ouais. Les réseaux en général, ce qu'on oublie souvent au travers de justement toutes ces plateformes de diffusion, c'est que derrière, il y a des fermes numériques, des fermes de disques durs entiers qui sont obligés d'être refroidis par d'énormes...
Différentes formes de choses, et des fois des choses pas très écolo.
Très, très énergivores. Souvent. Et on se dit par exemple, alors je prends un exemple tout bête, sur YouTube, qui est une des plateformes les plus connues, sur lesquelles on a des milliards et des milliards et des milliards de vidéos, de contenus en tout genre, divers et variés. On peut effectivement trouver des choses très, très intéressantes, très instructives.
Et des choses horribles.
Et des choses horribles, et des choses qui semblent ne servir absolument à rien du tout. Par exemple, je vois, j'ai pour exemple, tu vois, 6 heures de musique non-stop, oui. Ou alors le pire, après, ça va être 6 heures de feu de cheminée pour mettre sur sa télé. Et alors ça bouffe un espace disque énorme juste pour avoir un faux feu de cheminée sur sa téloche,
ouais. Quoi. Ouais, ouais. Après, au niveau de la musique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et qui l'écoutent souvent pour se concentrer, etc. C'est beaucoup de musique de concentration qu'il y a souvent d'excédent en long, comme ça, sur 6, 7, 8 heures. C'est des musiques de concentration, souvent.
Est-ce que t'as même des applis qui te permettent de choisir des sons pour travailler.
Oui, c'est vrai que c'est bien aussi, ça.
Alors, ce rapport à tout ça, est-ce que ça va être abordé, justement, lors de la conférence cet après-midi ?
Alors, ce qui va être abordé, c'est un petit peu démystifier la réalité de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mm-hmm. Comment elle fonctionne, comment elle est construite, grâce à quoi. Et là, en l'occurrence, on retombe plus sur des problématiques des algorithmes. Les algorithmes, ça, on peut très, très vite se rendre compte... de à quoi ça sert et comment ça marche. Donc, je vais essayer d'expliquer.
C'est très insidieux.
Pour que ce soit simple à comprendre et comprendre les différentes formes de mode d'apprentissage des machines pour qu'elles ressemblent de plus en plus à notre fonctionnement à nous. Et puis démystifier aussi du moment où elles pourraient devenir intelligentes. Voilà, ça veut dire quoi une machine intelligente aujourd'hui ? Et par contre aussi appuyer sur le fait que c'est déjà relativement mortifère, mmh. Et que c'est déjà principalement utilisé pour de l'enfermement et de la manipulation, mais que c'est pas inéluctable. En fait, le truc, c'est que finalement, moi, je suis une spécialiste de la protection des données. Tu vois, le gros mot RGPD, là, mais bon, c'est un gros mot que les gens veulent pas entendre, mais en même temps, c'est la défense d'un droit fondamental dans des systèmes d'information dont on comprend rien. Donc, ça me semble quand même assez important de défendre un droit fondamental
au cœur des machines. Cette fameuse validation qu'on voilà. Clique facilement sur chaque site sur lequel on va.
Autorisez-vous les cookies.
Ouais.
Des trucs comme ça, on met autres. Tout de suite oui, alors ouais. que en tout petit dans oui. Un coin, il y a souvent, maintenant ils sont obligés
comme ça,
en plus.
Je connaîtrais la couleur du slip de ta femme.
Voilà, c'est ça.
C'est pas écrit, mais c'est ce que ça veut dire.
Mais en tout petit dans un coin, il y a quand même un lien où non, ne pas accepter. Mais il faut le choper, il faut le trouver.
Mais c'est très intéressant parce que en fait, c'est vraiment la symbolique du fonctionnement, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on se bat contre la problématique des cookies, qui est la problématique de la capture de données personnelles qui permet justement de mieux cibler qui tu es et de pouvoir te faire croire absolument tout ce qu'on a envie, tu crois, ou que t'achètes, ou que tu penses, ou que tu votes, parce que là maintenant on est arrivé à des niveaux quand même assez importants. Comme on n'a jamais travaillé ça, parce que très honnêtement, aujourd'hui en informatique, on serait capable de faire des gestions de cookies quasiment transparentes pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ce ne serait pas une tannée. Mais comme ça ne correspond pas à l'esprit général de ce que veulent les grands acteurs du numérique, eh ben, même ça, on en a fait une tannée pour l'utilisateur final. Comme ça, il dit « putain, ça fait chier ». Alors que non, c'est là
du
pour
coup,
sauver
j'appuie sur « ok ».
Du coup, j'appuie sur « ok » et c'est peut-être même encore plus contre-productif que ce qu'il y avait avant. Donc c'est aussi ces bonnes questions-là à se poser, à se dire, est-ce que ça mérite que je prenne du temps de configurer les cookies ? Et si ça le mérite parce que ça me gave, qu'est-ce que j'y gagne ? Donc c'est que les gens arrivent à comprendre que voilà, c'est à nous de dire on voudrait que nos cookies soient gérés, on voudrait que ce soit facile pour nous, on voudrait que ça ne nous prenne pas la tête, et on sait que vous êtes capable de le faire.
On peut déjà faire du ménage aussi en interne, pour commencer, dans ses smartphones, dans ses ordinateurs, dans ses tablettes.
Oui.
Regarder un petit peu les historiques, regarder, aller directement dans le paramétrage des cookies,
ouais,
et dire,
puis,
bon, on va vider un petit peu tout ça.
Voilà, tu parlais de vidéos, etc. Il y a des questions à se poser à titre personnel, parce que c'est quand même nous qui remplissons les plateformes et les réseaux sociaux. Hein, c'est pas des, maintenant, il y a quelques machines qui le font automatiquement, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle du mechanical turk, c'est de l'humain qui bosse pour des machines.
Bah, et d'ailleurs, maintenant, sur... Par exemple, je prends l'exemple de Twitter, plus de 75% des tweets, c'est écrit par des robots.
Exactement.
Donc, c'est la majorité de l'espace de stockage de Twitter, elle est tuée par des robots, quoi.
Oui. Donc, et puis, t'as tout ça, puis t'as le fait aussi que, bah, finalement, on a dit aux gens, c'est tellement facile, tu fais ce que tu veux. Tu prends une photo avec ton smartphone en haute définition, tu la mets sur Facebook.
C'est ça.
Donc, il y a plus de... quand on parle d'écologie, pour le coup, data center, d'empreinte carbone du numérique, l'empreinte carbone du numérique, elle est majoritairement créée par nous, utilisateurs finaux. C'est-à-dire que qui, aujourd'hui, sait réduire la taille et le poids d'une photo?
Oui, ou d'une vidéo, enfin, voilà. Qu'importe, mais
donc, ou d'un PDF. Je veux dire, cet effort-là, il faudrait que tout le monde comprenne que ça, c'est ça aussi qui génère énormément d'empreintes carbone, parce que de poids, de stockage et d'hébergement dans les data centers. Et aujourd'hui, ta photo, elle fait 4 mots et tu l'envoies par mail ou tu la mets sur Facebook, alors que avec une simple petite manip, elle va passer à 250 KO. Et voilà, c'est toutes ces pratiques-là, nettoyer ses ordinateurs, faire attention aux paramétrages de sécurité, faire l'effort de paramétrer les sites où on va régulièrement. Moi, je vais un peu plus loin en disant, demandant, exerçant son droit d'accès auprès des plateformes avec qui on travaille le plus, alors de préférence européenne ou française, parce que si tu veux demander ton droit d'accès à Facebook, bon courage. Donc ça aussi, c'est des réflexions à se poser. Pourquoi, en France, la plupart de nos plateformes sont américaines? Pourquoi il n'y a pas de plateforme française qui ferait l'équivalent? Donc, il y en a, mais on les connaît pas ou peu. Et en plus, la force d'une plateforme, c'est le nombre de personnes sur la communauté. Donc même quand toi, tu parles de tes 20 potes sur un compte Facebook privé ou Insta privé, le temps que tu vas prendre à rapatrier tes 20 potes sur une plateforme européenne type diaspora ou machin, tu dis, allez, vas-y, c'est bon, on reste sur Facebook.
C'est ça.
Voilà. Et tu vois, c'est toutes ces pratiques-là et toutes ces questions qu'on s'est pas vraiment posées. Là, on nous bassine avec la souveraineté numérique, mais c'est il y a 30 ans qu'il fallait penser aux outils qui permettent la souveraineté numérique.
Et en même temps, est-ce qu'on est capable d'en produire d'aussi efficaces quand on voit le monstre qu'est Google, qui arrive vraiment à aller chercher des informations, qui nous traduit des textes en roumain, en javanais, en tout ce qu'on veut, qui nous détecte, qui fait de la détection de plantes, de l'identification de plantes ou même de livres, qui sait lire à notre place un texte quand on le prend en photo sur un bouquin ou choses comme ça. Enfin,
tu prends par exemple une application, beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Yuka, qui va détecter ce qu'il y a dans le produit que tu vas acheter, etc.
Mais Google Yuka centralise tous ces trucs-là. En fait, le problème, c'est qu'on se retrouve à devoir télécharger différentes applications pour avoir l'équivalent de Google.
C'est ça.
C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que toutes nos données soient la propriété d'une boîte américaine sur laquelle on n'a absolument pas de
transparence?
Voilà, parce que t'entends beaucoup les gens dire, oui, il y a la loi. Ouais, ok. Sauf que Google, c'est une entreprise privée.
Oui, et puis la loi, la loi française,
voilà,
en tout cas.
Tu vois, ils ont des obligations, par exemple, par rapport au RGPD. Ils ont des obligations de traitement de données par rapport aux Européens. Mais en réalité, il faut pas oublier que les boîtes privées, même si elles tentent d'être vertueuses, et franchement, des boîtes comme Apple, etc., ont quelque chose de vertueux dans leurs approches, d'autres aussi, hein, je cite ça un peu, je vais pas faire de privilèges, et même Google en interne a des politiques, mais l'objectif d'une boîte privée, c'est faire de la caillasse,
de toute façon.
De l'argent, à la base.
On est d'accord.
Donc forcément, c'est pas l'intérêt général et l'intérêt public qui va primer, et la transparence des algorithmes qui vont primer, puisque les algos, c'est des brevets, les brevets, c'est de l'argent. Donc pourquoi aller vers une transparence des algorithmes et pourquoi donner la main à la gestion d'algorithmes quand c'est ta source de revenus? Donc voilà, il y a tout un fonctionnement qu'il faut au moins comprendre. Et moi, je dirais presque, c'est j'essaye de dire aux gens, ok, je vais pas vous trouver la solution miracle, mais je vais peut-être vous donner envie de faire l'effort de pratiquer autrement certaines choses. Après, tu prends par exemple notre région, si tu communiques pas sur Facebook sur des événements aujourd'hui qui se passent sur la région, tu manques énormément de gens.
C'est le souci aussi qu'on rencontre, c'est qu'effectivement, à partir du moment qu'on soit du milieu associatif, qu'on ait un truc à défendre, ou même auto-entrepreneur, quel que soit le corps de métier dans lequel on évolue, ou même les idées qu'on a envie de défendre, on se retrouve à être contraint d'utiliser ces réseaux-là pour pouvoir faire en sorte qu'elles existent, ces paroles.
Bah oui.
Et d'un autre côté, on se rend compte, actuellement, là, Facebook, c'est en perdition totale parce que les posts qu'on fait sont totalement noyés par, justement, ces fameux algorithmes qui contrôlent ce qu'on a regardé auparavant et qui nous font des suggestions, je vais y arriver, par rapport, justement, au contenu qu'on a vu et qui nous proposent des pubs pour des bagnoles et qui c'est rempli de pubs avant qu'on tombe sur un contenu qui vraiment nous intéresse ou ne serait-ce qu'au départ, Facebook, c'était quand même un truc pour relier famille, les amis, etc. C'était vraiment le truc entre soi, on va dire.
L'intention de base de Facebook, c'était pécho des meufs. Quoi.
Alors, ouais, il y avait de ça aussi.
Revenons quand même.
Oui, c'est un peu comme Snapchat, tout ça. Hein.
c'est toujours peu la base de ces réseaux-là.
Mais c'est vrai que après, moi, connaissant bien l'historique entre guillemets du numérique, la base financière de tout ce qui a été créé, c'est les jeux d'argent, la pornographie,
le sexe,
et l'armée. Voilà. Donc tu as le triptyque extraordinaire de l'émancipation du numérique dans le monde. Donc, après, tu as aussi, en parallèle de ça, le réseau des estudiantins et des universitaires, qui lui a plutôt amené un numérique qui, moi, me séduit plus, de pair à pair, d'échange d'informations, de création d'émancipation, de libre arbitre, de controverse, etc. Et dans le temps, en fait, on n'a pas été vigilant à ça. Et effectivement, au lieu de mettre ça en avant, on a plutôt privilégié la thune, parce que c'est quand même...
Et puis quoi encore ?
Tu vois, faut quand même pas déconner avec les choses sérieuses. Et résultat, on a eu des plateformes qui ont commencé à devenir fermées, et pas payante, donc l'arnaque totale, parce que quand tu enfermes les informations sur un seul élément et qu'en plus tu peux y accéder gratuitement, pourquoi t'irais pas?
C'est ce que dit Facebook lors de son inscription. Facebook sera toujours gratuit, etc. Et pareil, tu disais, je m'informe beaucoup sur Twitter. Il y a énormément de jeunes, de personnes, quel que soit l'âge, qui s'informent via ces réseaux-là, qui ont des informations bien souvent tronquées. C'est là que naissent les complotismes, etc.
Aussi.
Donc, c'est revenir à la source média locale, à la source média radio ou télé ou journaux papier, tout simplement, les sources dites officielles.
Oui, et puis tu vois, moi je dis ça, mais ça fait 10 ans que je rêve qu'il y ait des gens qui aient assez de thunes pour créer une plateforme où tu puisses avoir, par exemple, un petit portefeuille où toi tu mets des sous. Et quel que soit l'article que tu as envie de lire sur quel que soit le média, juste tu payes avec ça. Aujourd'hui, de voir s'abonner, à La Tribune, à Libération, au Figaro,
au Courrier International, mais aussi au Courrier Cauchois,
mais aussi à Paris Normandie, pour pouvoir avoir les articles en intégralité, dans le monde numérique que moi je connais, je pose clairement ça comme une aberration.
Donc créer une caisse solidaire.
Et puis 10 centimes si tu veux lire l'article.
Exactement. Et tu payes avec ça. Alors c'est un taf énorme de volonté à la fois politique et dans l'intérêt général d'arriver à regrouper tous ces médias.
Car ça voudrait dire que tous les médias, il faudrait qu'ils se mettent en un.
Exactement.
Et là, ça serait compliqué.
Et ça devrait aussi être une plateforme quasiment d'État.
C'est ça.
C'est-à-dire que toi, t'es citoyen. Tu mets 10 balles dans ton porte-monnaie. Quand tu veux lire un article sur Libé, hop, tu mets 1 euro. Tu veux le lire sur Courrier International, tu mets 1 euro. Tu veux lire La Tribune, tu veux lire le Figaro Mag, tu veux lire Valeurs Actuelles, c'est la même chose. Après, il y a aussi cette idée...
Oui, mais si quand on a des, excuse-moi, je te coupe, mais quand on a des Bolloré qui sont à la tête de ces médias-là et qui regroupent entre Canal+, Universal et puis tous les canards possibles, imaginables, qui ont la moitié de la presse.
C'est ça.
C'est compliqué.
Donc pour moi, si tu veux, le numérique, c'est vraiment un combat pour dire ça peut être de l'ouverture, ça peut être de l'intérêt général, ça peut être de l'émancipation, ça peut être de l'information. T'imagines le nombre d'informations que tu peux avoir un sujet qui t'intéresse, et des informations qui vont dans ton sens, des informations qui vont contre ton sens, et c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Quand tu commences à pouvoir lire des choses pour et contre ce que tu penses et les accepter et te faire toi-même ton idée, et ben t'es plus biberonné aux informations toutes faites, toutes congelées, que tu ressors tranquillou dans ta famille au dîner et où t'as même pas réfléchi dessus en réalité.
Oui, parce que le recul est difficile à prendre,
et ça,
en plus,
c'est le mauvais
parce
côté
que
du
on
numérique.
A tellement en plus le fil d'actu de l'ensemble, on est noyé sous les informations entre la télé, les réseaux, etc. Enfin, on en bouffe. C'est ça qui rend aussi les gens un peu anxieux par rapport justement tout ce qui crée les peurs d'évolution. Tout quand on couvre, je sais plus dans quoi j'avais vu ça où quelqu'un disait mais attendez la situation actuelle n'est pas si catastrophique dans le sens où parler de la guerre en Ukraine et de la dangerosité du président qu'on connaît bien et que je ne citerai pas, on a connu bien pire, sauf que avec tout ce qui est réseau informatif, en fait, on en fait quelque chose de presque inéluctable et qui va nous bouffer, quoi. Alors que les massacres au Rwanda, par exemple, à l'époque où il n'y avait pas tous ces réseaux-là, ont été bien pires que ce qui a été fait en Ukraine. Je ne minorise pas ce qui a été fait, effectivement, mais voilà, le rapport en fait, du traitement de l'information et de la manière dont on le digère est totalement différent à l'heure d'aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans.
Ce qu'il y a, je trouve, c'est qu'il y a un manque de... Comment dire ? De transparence au niveau des médias et des États, en fait. Par exemple, quand on va aux États-Unis, c'est un des seuls pays d'ailleurs qui a fait ça, c'est que il y a trois pouvoirs dans chaque État. Donc tu vas avoir le pouvoir législatif, militaire et juridique.
Ok.
Aux États-Unis, t'as ces trois pouvoirs-là, mais eux, ils ont dit, et c'est les premiers à avoir compris ça, que les médias, c'était un vrai pouvoir, que les médias, c'était... Et donc, aux États-Unis, c'est un des seuls pays où il y a un quatrième média, un quatrième pouvoir, et ce quatrième pouvoir, c'est les médias. Et je trouve ça quand même assez dingue que les autres pays se rendent pas encore compte du pouvoir de cette chose-là, ou alors ils s'en rendent compte, mais ils...
C'est traité d'une manière différente, je pense, de toute façon.
Bah, on peut comprendre que les pouvoirs politiques en place fantasment sur le fait que les médias soient au service de leur propagande personnelle. C'est acceptable hein, comme idée.
On le voit bien lors des élections, de toute façon.
Sauf que, normalement, en démocratie, ça peut aussi être du contre-pouvoir. Et puis, aux gens de se faire leur propre opinion.
C'est ça.
Et c'est ça qui est un petit peu en train de se déliter en ce moment. Et puis, après, bon, moi, il ne faut pas me lancer là-dessus. Hein. On peut parler de surveillance de masse. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui ont déjà été mises en place. Parce que, tu vois, te dire que par exemple, tu lis, parce qu'on pourra tracer que Laure Isabelle va lire un article du Figaro, un article de La Tribune, un article de Libération. Donc après, on en sort quoi ? Laure Isabelle n'a pas d'idée politique. Laure Isabelle est bizarre quand même, parce qu'elle n'appartient pas à une communauté identifiable. Faudrait-il surveiller Laure Isabelle ? Enfin, tu vois, ça va très très vite. Et du coup, le mécanisme de cette approche qui s'installe après chez les gens, c'est du clivage. Parce qu'il ne faudrait pas parler avec quelqu'un où tu ne sais pas s'il pense la même chose que toi. Donc c'est quand même ça qu'enrichit les discussions, hein, quand on ne pense pas
la même chose. Mais c'est le souci avec les algorithmes aussi.
Voilà. Et puis le côté autocensure. C'est-à-dire des choses que je ne dis plus, que je ne publie plus, que je n'écris plus, parce qu'on pourrait poser ce regard sur moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être très très fort dans la société actuelle, ou très très clair dans ses bottes. Et s'autoriser à changer d'avis. Enfin, déjà, ça, c'est un truc de ouf, quoi.
Ah oui,
les gens ne s'autorisent plus à changer d'avis.
Alors, je me permets de rebondir là-dessus. J'ai vu aussi une étude qui a montré qu'à partir du moment où on avait certaines convictions, quelles qu'elles soient, on rentrait comme tu le disais, dans une sorte de communauté parallèle, ou enfin, je sais pas comment définir le truc, mais enfin, voilà, on se met dans une bulle avec des gens qui pensent plus ou moins la même chose que nous. Ce qui fait qu'on n'a pas d'avis contraire au final, parce que on va suivre sur les réseaux toujours à peu près les mêmes discours et on va s'enfermer toujours dans une espèce de confort où il n'y a pas de contradiction en face, parce c'est que ça. Bah oui, toi tu penses la même chose, hein, t'es d'accord, bah oui, bien sûr que je suis d'accord, ouais, bah donc on a raison, bah oui on a raison, et donc du coup bah c'est nous qui sommes les plus forts entre guillemets.
C'est vraiment donc, le principe de l'autre. Tu vois, l'autre en tant qu'altérité, tout est plutôt aujourd'hui organisé pour que l'altérité soit ton ennemi. Alors que, en fait, l'altérité, c'est ce qui te rend moins con.
Voilà. Bah, c'est ce qui te permet d'évoluer, de prendre un peu de recul et de réfléchir, voilà. De dire attends, est-ce que j'ai.
Et même si ça te choque, même si ça te heurte, même si ça t'étonne, c'est ce qui va te faire évoluer dans ta pensée et donc changer éventuellement d'avis. Et ça, voilà, je reviens à ça, mais il y a aussi l'opprobre populaire, l'opprobre de la société, l'opprobre de la famille. Oh, mais t'as toujours pensé ça, qu'est-ce qui te prend
T'es
sous influence de qui?
Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis.
Bah, c'est juste que j'ai ouvert mes oreilles, j'ai rencontré des gens, on en a parlé... ça m'intéresse et je trouve pas que leur approche soit si horrible que ça, quoi. Et t'es jamais à 100% pour quelque chose, jamais.
Ah bah non,
il y a rien de pire que d'être convaincu, j'ai envie de dire, presque.
Bah oui, c'est ça le doute. Moi je suis une fan de philo et c'est aussi un peu ce que j'aime dans Vivre en Transition, c'est voilà, le questionnement, le doute, la réflexion, le changement de position, et voilà, que les choses soient argumentées. Et que tu sois en capacité de dire, moi je veux pas être 100% écolo parce que ça me fait chier, parce que j'aime mon SUV. Ok, pourquoi pas. T'as le droit. Tu sais ce que tu fais avec. Si éventuellement en contrepartie t'es capable de vachement gérer ta poubelle et de faire un compostage de ouf et d'avoir un jardin partagé, bon bah voilà.
C'est nickel.
Ça s'entend, tu vois. Faut pas non plus. Mais il faut quand même que tu saches que le SUV, c'est pas bon. Mais après, il y a aussi tout l'aspect social. C'est-à-dire que moi-même, j'ai un vieux RAV4 de 94. Je n'ai pas les moyens de racheter autre chose.
Et non.
Et cette histoire de vignette en ville où je ne peux plus aller...
Ah bah, ça, c'est horrible.
Ça me rend limite violente.
Ah, et puis, on a cette prise de conscience aussi. Il y a certaines personnes maintenant qui montrent que... Mais est-ce que finalement, d'avoir un véhicule... Alors, bien qu'il pollue et bien qu'il ait des émissions carbone qui dépassent l'entendement, mais en attendant, ce véhicule-là, ça fait 30, 40 ans qu'il roule.
Donc ça se discute.
Et celui-là, il aura duré le temps qu'il aura duré, mais en attendant, voilà, il a fait son temps. Et plutôt que de refaire des voitures, de racheter des voitures tous les ans, et enfin, ou en tout cas tous les 2 ans ou 3 ans.
C'est en ça qu'il faut se poser des questions, des fois, qui vont contre un peu le. Voilà, quand tu vois par exemple les écologistes disent le meilleur déchet c'est celui que tu produis pas. Moi je produis pas de déchets en gardant ma vieille bagnole.
Bah oui,
c'est ça. Si j'en achète une nouvelle, je produis un déchet. Donc tant qu'elle tient, je vois pas pourquoi j'irai acheter autre chose. Et je m'interrogerai même, parce que j'ai envie de comprendre les choses, est-ce que c'est une voiture électrique que j'achèterais, alors que tout le monde me dit que c'est très bien. Enfin, finalement ça commence un peu à changer d'avis. Mais voilà, c'est quoi pour moi l'important?
Surtout qu'il va falloir arrêter de mettre le chauffage pour qu'on puisse charger les voitures.
C'est ça, ouais. Tu vois, quand on parle dans des mondes ubuesques.
Voulais dire un truc. Oui, on en avait parlé avec des copains de ça, en fait, des voitures, un petit peu des vieilles voitures. Et on se posait la question, et on a vérifié, et oui, ça a déjà été fait, si c'était possible, en fait, de faire d'une ancienne voiture, pour éviter justement de mettre les voitures obsolètes, un petit peu à la casse, une fois que elles sont trop vieilles ou elles polluent trop, puis les gens ils changent de voiture, puis ils se disent bon bah voilà, hop, elle est morte. Est-ce qu'il est possible de la désosser puis de mettre un moteur électrique dedans, tout simplement?
Ouais, pas toutes les voitures.
Pas toutes les voitures, mais certaines c'est possible. Donc ouais, franchement, ça, pourquoi pas? Tu vois, c'est encore une fois, pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est
Le festival des possibles.
Mais exactement.
Le champ des possibles.
Et ce sera la conclusion, parce qu'on pourrait parler des heures, en fait. Vous vous rendez compte? En fait, voilà, c'est, vous avez l'image exacte de ce qui se passe ici, dans le quartier du Ramponneau, du côté du parc Botanica, sous le chapiteau, etc. Le festival des possibles, c'est ça. C'est de la discussion avec des gens, ça digresse, ça part loin, parfois, ça remet en cause, ça réfléchit, ça se donne des avis. ça s'entraide. Et voilà, et c'est à ça que ça sert, ce festival-là. Merci, Laure-Isabelle.
Je vais
conclure là-dessus. On pourrait, comme je disais, en parler encore des heures. Rendez-vous à 16h sous chapiteau.
Oui.
Pour développer encore ce débat.
Intelligence artificielle, algorithme, et moi.
Et moi. Bah oui, on est vraiment sur... Les Québécois disent, on fait des égo-portraits. J'aime beaucoup ce truc-là pour parler du selfie. C'est vraiment se flatter l'ego que de se prendre en photo. Réfléchissez quand vous postez des choses sur les réseaux, des trucs comme ça, voilà... Posez-vous la question de savoir si c'est bien utile ce que vous mettez. Ne serait-ce que ça, commencez par ça déjà. Ce sera un début, on va dire ça comme ça. Merci encore une fois de ta présence. On vous laisse avec un petit peu de musique. La Maison Tellier, les Rouennais de la Maison Tellier, avec l'exposition universelle. C'est le titre qu'on vous propose tout de suite sur Radar. Et puis, à la volée, les interviews tout au long de l'après-midi jusqu'à 17h30. Restez avec nous. Bon après-midi, bon appétit si vous êtes à table.
Le Festival des Possibles, c'est sur Radar.